mon introduction. Cette introduction peut agacer, mais je m'en tape comme à chaque fois. Compilation maison sur la deuxième émission de radio de l'année scolaire 2024-2025 de Guy Gilbert, le mercredi 6 novembre 2024, en direct, de 21h à 22h30. Émission qui avait pour thème « Parlons de nos défunts qui sont au ciel ». Comme à chaque fois dans chacune de mes compiles depuis des années, j'enlève les trucs chiants de ce direct pour ne garder que les meilleurs passages, c'est-à-dire les moins inintéressants. Car il y a certaines auditrices et certains auditeurs, enfin bon, on se comprend. Si vous voulez des renseignements, je suis joignable sur mon Jean-Yves 0013, tout attaché, en minuscule et sans trait d'union, jeanyves0013@gmail.com. Allez, c'est parti pour les 34 extraits que j'ai sélectionnés, soigneusement découpés et assemblés, le tout pour un peu plus de 42 minutes brutes, et n'hésitez pas à diffuser ma mini-compile. Merci pour lui, et d'emblée, précision très intéressante de l'animateur.
Le cycle de la Toussaint commence pour notre liturgie lors des Vêpres le 31 octobre au soir et se termine à la fin du 1er novembre. Pourtant, ce cycle s'est élargi dans nos sociétés, disons occidentales, avec la fête d'Halloween jusqu'au jour des défunts, le 2 novembre. Ce à quoi il faut ajouter qu'il existe en France une confusion entre la Toussaint et le jour des morts, et ce, depuis le Moyen-Âge. Alors, pour nous éclairer sur cette question, sur la question de ce cycle de la Toussaint, tournons-nous vers le Père Guy afin de mieux saisir, de mieux comprendre toute la richesse de cette période liturgique de l'année.
Souvenir de Guy Gilbert quand il avait 13 ans.
Quand j'avais 13 ans,
oui.
J'avais 13 ans, les supérieurs nous parlaient de la mort avec tremblement. On avait toujours peur.
On avait peur de quoi ?
Ben, ils disaient l'enfer, vous pouvez risquer l'enfer, etc.
Oui.
Et j'ai un mauvais souvenir de la mort quand on me donnait ça quand j'étais jeune.
Oui.
Au cours des 56 ans de sacerdoce, j'ai cru quand même que la mort existe,
oui.
Mais on ne va pas tous au ciel forcément,
oui.
Mais on passe par le purgatoire.
Alors, ceux qui disent que le purgatoire est une invention théologique assez tardive, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que l'Église a inventé ce concept? Est-ce qu'elle l'a découvert? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus?
Je ne sais pas t'expliquer ça. Simplement, en général, je dis que le Seigneur nous permet d'aller au paradis une fois qu'on est... mais que ça se mérite et que nous devons expier les péchés que nous avons faits sur la terre et qu'on passe par le purgatoire.
Emploi du temps, entre guillemets, au purgatoire.
Qu'est-ce qu'on fait au purgatoire? Comment on nous purge de nos fautes et de nos péchés? On prie beaucoup? On nous fouette? Qu'est-ce qui se passe?
On n'a pas l'amour de Dieu.
Ah.
L'important du paradis, c'est l'amour de Dieu qu'on sent extraordinairement. Au purgatoire, on pressent l'amour de Dieu, mais on ne l'a pas directement. Voilà, c'est ça la différence importante.
Mais on sait qu'on va pouvoir l'atteindre. On sait qu'il y a une direction.
On sait qu'on va pouvoir l'atteindre. Donc, c'est un moment heureux où on attend impatiemment de liquider nos péchés et de monter au paradis.
D'accord.
Pour vivre l'amour avec le Christ.
Eh bien, comme disait Coluche, on est drôlement mieux en France. Quant à l'enfer, Harry, Ferrari.
L'enfer, c'est... on ne connaîtra plus jamais l'amour de Dieu. On est dans un état, il y a des saints qui ont vu l'enfer et ont trouvé ça terrible. Voilà. L'enfer, c'est qu'on ne trouvera jamais l'amour de Dieu. Je sais qu'on peut penser à Hitler, on peut penser à Staline, qui sont coupables de millions de morts, mais on ne sait pas si à la dernière seconde, ils ont eu la grâce de Dieu. Voilà. Mais c'est un endroit terrible, l'enfer.
Et on peut dire que ce n'est pas un endroit vide, parce qu'il y a toute une théologie qui expliquait que l'enfer était vide. A priori, ce n'est pas forcément un lieu désert, il doit y avoir du monde.
Je ne sais pas le lieu, je ne peux pas décrire le lieu de l'enfer.
Bien sûr.
Mais c'est qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu. On ne le connaîtra jamais. Et ça, c'est quelque chose de terrible pour un chrétien.
Donc on peut quand même imaginer que l'amour de Dieu est plus grand que nos péchés ou nos fautes, quand même.
Ah ben l'amour de Dieu, c'est l'essentiel de notre théologie, ça. C'est connaître l'amour, la joie d'amour, d'aimer les autres comme on n'a jamais aimé. Parce qu'on est libéré de tous les péchés et on aime Dieu comme s'il était présent.
Eh bien, quel programme ! Quant à la définition d'un saint, saint S-A-I-N-T, bien sûr.
Alors, voilà. Guy, pour ce qui est de la sainteté, est-ce que tu peux nous redire ce qu'est un saint ? Est-ce qu'un saint, c'est quelqu'un de parfait ? Est-ce qu'un saint, c'est quelqu'un qui dit oui à Dieu ? Est-ce qu'un saint peut avoir des débordements, dire des gros mots, par exemple ? Qu'est-ce que c'est un saint ?
Ça veut dire que tu m'atteins totalement, moi, qui dis souvent des gros mots, parce que je suis habitué au langage des jeunes.
Mais oui.
Alors, répète ta question.
Alors, est-ce qu'un saint, c'est quelqu'un de parfait, ou est-ce qu'un saint, c'est quelqu'un qui dit oui à Dieu, même s'il a des colères, même s'il dit des gros mots, même s'il fait des choses un peu étranges ?
C'est quelqu'un qui a vécu l'amour de Dieu jour après jour, qui a vécu une sainteté, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté, qui a vécu la douceur, la bonté, le partage. C'est quelqu'un qui a pu arriver à Dieu directement sans passer par le purgatoire.
Est-ce que tu as rencontré des saints ?
Ah oui, oui.
Ah oui ?
Oh, j'ai rencontré par hasard, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Ça se voyait dans le regard.
Ah oui.
Ça se voyait dans l'attitude. Je connais ma mère. Ma mère était une sainte.
Méditation sur la mort. Ah ouais, qu'est-ce qu'on rigole, hein ?
Il faut méditer la mort. Je pense que chaque jour, je pense quelques instants à la mort. Depuis que je suis prêtre, 74 ans, 59 ans.
Ah.
Je sais que la mort est le deuxième berceau de ma vie. Je sais que quand je mourrai, le Seigneur m'accueillera. Enfin, je vais passer par le purgatoire. Hein.
Non, tu as un saint, toi, Guy. Non, tu vas aller directement. Non, t'es pas un saint.
Non. Je passerai par le purgatoire et ouais. J'attendrai de voir Dieu impatiemment.
C'est parti pour deux enterrements. Oui, pas très gai, et c'est le thème qui veut ça.
J'ai assisté à deux enterrements. L'un, un jeune de 15 ans, qui était mort accidentellement. La famille était catastrophée dans l'église.
Ah oui.
C'était un moment épouvantable. Il y avait des chants, mais c'était de l'orgue surtout. Et la personne pensait qu'elle ne reverrait plus jamais son fils. Et le deuxième enterrement, quelque temps plus tard, la famille était chrétienne, c'est un enfant de 15 ans. Elle sentait l'amour de Dieu, elle sentait la joie de retrouver un jour leur fils qui était parti. Et c'était extraordinaire. Et les jeunes qui m'accompagnaient ont, à la guitare avec des chants splendides, sont allés avec les guitares jusqu'à la tombe pour jouer. C'était un moment très émouvant, très très beau. Et c'est un des plus bels enterrements que j'ai fait dans ma vie. Ça.
L'une des originalités du curé le plus connu et le plus populaire de la France.
Quand oui. Je dis une messe,
oui.
Je dis toujours au momento des morts, je dis toujours aux gens, donnez-moi le nom de ceux qui sont morts, tout fort. Et l'Église éclate de
nom, de prénom.
De prénom. C'est magnifique, ça. Parce que nous disons, prions pour les morts, mais quand on demande à la personne qui assiste à la messe de donner le nom d'un mort, c'est extraordinaire.
Comme moi et quelques autres, Guy Gilbert déteste, et à juste titre, cette connerie, cette immense connerie et saloperie débile d'Halloween.
On va parler maintenant de l'autre fête qui est liée à la Toussaint. C'est une fête d'origine celtique qui honore les morts d'une certaine façon et qui joue sur la peur. C'est la fête d'Halloween qui se situe donc Halloween, le jour d'avant, All Hallows Eve, la veille de la Toussaint. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette fête d'Halloween, Père Guy ? C'est une fête.
Oh non, c'est une fête de déguisement,
oui,
que les jeunes adorent,
oui,
de peinture sur le visage.
Oui.
Halloween, c'est l'Amérique qui a pris ça.
Aux Irlandais. C'était d'abord irlandais, et puis la communauté irlandaise en Amérique en a fait. Voilà.
Et c'est une fête formidable, alors qu'on devrait normalement prier ceux qui nous ont quittés, en espérant de les retrouver, mais ils ont fait tout un grabuge là-dessus, des vêtements extraordinaires,
oui,
des visages peints, etc.
Voilà.
Non, je ne pense pas que c'est saint ce jour-là.
Non, ce n'est pas un jour saint, mais ça fait partie du cycle de la Toussaint dans certains pays. Alors au Mexique, on va sur les tombes, on danse, on chante, on boit de l'alcool. Alors ça aussi, on peut s'étonner. Est-ce que c'est aussi une certaine façon de se rapprocher des morts ?
Ça peut être une certaine façon de se rapprocher des morts. Mais au lieu de prier pour eux, c'est pas en buvant et en dansant qu'on arrivera à changer. En 1998, Saint Odilon, abbé de Cluny,
ouais,
demande à tous les monastères dépendants de son abbaye de célébrer une fête le lendemain de la Toussaint pour la mémoire de tous ceux et celles qui reposent dans le Christ. Et cet usage s'est répandu à toute l'Église et il demeure aujourd'hui.
Ouais.
C'est une rencontre sanctifiante avec le Seigneur et avec tous ceux qui sont morts.
Bien parlé. Chapitre spiritisme maintenant.
Alors, Père Guy, il y a une autre question qu'on pourrait se poser. C'est que certaines personnes ont tendance à vouloir interroger les morts. C'est interdit dans la Bible. Pourtant, certains le font. Victor Hugo aimait à faire tourner les tables. Il avait perdu sa petite fille, donc on comprend le chagrin et il voulait rentrer en contact avec elle. Et puis aujourd'hui, on parle de spiritisme, on parle de tablette Ouija, on parle de tous ces mages ou ces chiromanciens qui permettent soi-disant d'entrer en contact avec les morts. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de ce que pense l'Église à ce sujet ?
L'Église pense que les morts peuvent donner des signes, une fois qu'on est vivant, des signes d'eux. Il y a des gens qui me disent parfois, je pensais à mon père qui est mort, et j'ai eu l'impression cette nuit qu'il s'est assis au bord du lit.
Oui, oui, ça c'est très, oui, c'est courant.
Des tas de gens ont des paroles assez extraordinaires.
Oui.
Mais ça, le fait de demander à des mages de trouver, d'entendre parler les
morts,
parents,
ouais. Ouais,
c'est
ouais.
De la connerie, c'est de la connerie absolue, ça.
D'accord.
Voilà.
Oui.
Ça, c'est.
Et c'est même peut-être un peu dangereux spirituellement. Non.
C'est très dangereux.
Ouais.
Les morts peuvent nous faire signe par des signes qu'ils sont aptes à faire.
Oui.
Mais ceux qui entendent les parents parler, etc., c'est extraordinaire. C'est acheter la mort des autres.
Utiliser à des fins mercantiles.
Guy Gilbert se positionne à juste titre aussi sur les mariages mixtes, etc.
Je sais une chose, c'est que lorsqu'on enterre, j'ai enterré mon neveu, ma nièce s'est mariée avec un musulman. C'est affreux. La femme était rangée derrière les hommes étaient devant. La femme était derrière. La mère ne pouvait pas voir ce qui se passait. Et puis, après, les hommes se relaient pour enlever toute la terre et la mettre sur le cercueil. C'est vraiment une cérémonie vraiment funèbre. Il n'y a pas d'espérance. Alors qu'en France, les chrétiens se réunissent autour du cercueil. Ils disent tout ce que ce mourant avait de beau et de bon.
Oui, c'est vrai.
Et alors, si le prêtre connaît bien son affaire, il se dit, moi je dis toujours quand j'enterre quelqu'un, je l'appelle par son prénom et je lui dis, tu ressembles à Dieu, tu es en Dieu maintenant, tu es dans la joie. Nous te perdons un moment, mais nous te retrouverons. Ça, c'est des choses qui sont superbes et qui permettent aux gens de croire à la résurrection de la personne. Voilà.
Non,
l'islam de ce côté-là n'est pas bon. Je crois qu'il n'est pas bon. Mais les chrétiens, c'est quand une foule ensemble arrête dans l'église, prie pour celui qui est dans le cercueil et que le prêtre donne le prénom du mort en disant tu vois Dieu maintenant, tu es dans l'amour. C'est extraordinaire, c'est la résurrection qui revient pour les gens.
Une ex-musulmane convertie au christianisme se positionne à son tour.
C'est tout à fait ça. Dans l'islam, on parle de l'épreuve de la tombe. Donc déjà, on est beaucoup dans la peur de la mort. Mmh. Alors que la mort, moi, j'en ai plus peur, en fait. Donc, par rapport à l'islam, j'en ai plus peur. Enfin, ma conversion du christianisme fait que l'une des questions existentielles qu'on peut avoir, ne serait-ce sur la mort, j'en ai plus peur. Alors qu'à l'époque, je me souviens, quand j'étais dans l'islam, je dis... Alors déjà, on va mourir, mais en plus, on a une épreuve dans le cercueil qui dit que si tu as fait plein de bonnes actions, tu vas avoir un ange dans le cercueil. Et si tu fais des mauvaises actions, tu n'as pas d'ange. Enfin, rien que ça, moi, rien que déjà, c'était une angoisse par rapport à mon père que j'avais perdu et mon frère après, quelques années après. Je me disais, mais j'étais en train de me faire des films déjà, de me dire, mais des gens dans la tombe ne sont pas bien en fait. Donc,
oui.
Ma conversion m'a transformé et je dis, oui, l'espérance, c'est une vertu, c'est le Christ qui est revenu de la mort, mais ça change tout, en fait.
On est certain que son âme est au-dessus du cercueil et on peut parler à son âme en toute liberté.
13e extrait. On boucle les harnais car c'est la visite guidée de l'enfer. Et n'oubliez pas le guide. Le guide est un auditeur qui ne manque pas d'imagination. Écoutez.
En enfer, donc on souffre, on a chaud, on a soif, on est battu, on dispute, on pleure, on gémit. Donc c'est l'horreur, bien sûr. Et d'ailleurs, il y en a qui vivent des fois l'enfer sur Terre lorsqu'ils souffrent.
Hein. Oui, c'est vrai.
Donc vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin d'être mort pour souffrir.
Non. Oui.
Et maintenant, le purgatoire, on y reste un certain temps, le temps de payer ses dettes.
Voilà.
Bon, donc ils nous font travailler là-bas.
Oh bah disons, j'espère que non, Ahmed. Ah là là, si on doit encore travailler là-bas.
Non, on ne travaille pas. On a quitté la terre, on a quitté les...
On ne sera jamais à la retraite.
Le râteau, le balai, etc. Non, non.
Bon, d'accord. Et au paradis, est-ce qu'on danse, on s'amuse, on joue aux cartes, on chante, on fait quoi toute la journée, tous les jours?
On vit de l'amour de Dieu à plein temps.
Ah mais ça veut rien dire ça.
Comment?
Ça veut tout dire et rien dire. On vit de l'amour de Dieu. On vit, de toute façon, on vit. Mais quand on vit de l'amour de Dieu, vous savez, quand on vit dans une famille et qu'on a l'amour de ses parents, on n'est pas dans l'amour tous les jours. Et des fois, ils peuvent être fâchés. Ça n'enlève pas l'amour, d'ailleurs.
Tandis que, à la mort, on vit dans l'amour de Dieu à tout moment. c'est la plus grande grâce qu'on peut recevoir du Seigneur. C'est la grande grâce qu'on peut recevoir.
Mais est-ce qu'il y a une occupation ?
Ahmed,
je ne sais pas.
Ahmed, il faut savoir que lorsque l'on est en Dieu après la mort, il n'y a plus de temps. Donc à chaque fois qu'on se pose la question du temps, en se disant l'éternité c'est long, surtout vers la fin, comme disait Woody Allen, à chaque fois qu'on pense à la question du temps et qu'on est dans un état de rencontre avec Dieu après la mort, on se trompe, puisque précisément la mort et la rencontre avec Dieu suspend le temps.
D'accord, je l'entends bien, je l'ai déjà entendu dire, oui. Mais merci de me le rappeler, vous avez raison.
Mais
s'il n'y a plus de temps...
Oui.
Il n'y a plus de corps aussi.
Ouais.
Il reste quoi ?
Ben, l'esprit, l'âme.
Et toc ! Et Guy en rajoute une couche, tout comme le fameux auditeur qui se fait encore des nœuds au cerveau.
L'âme est perdue en Dieu et dans l'amour. C'est
d'accord.
Un amour éternel qui s'arrêtera jamais. C'est pour ça que c'est extraordinaire.
Donc l'âme étant immortelle, par contre, est-ce que la conscience existe en dehors de l'âme ?
Oui, parce que la personne existe.
Je pense que la conscience existe, oui.
Parce que j'ai entendu une émission il y a quelques jours, je ne me rappelle pas sur quelle radio, des expériences de mort imminente.
Ah, ça peut arriver, oui.
Paraît-il qu'il y a un film qui va sortir dans les salles de cinéma bientôt ?
Oui.
Qui est fait par un médecin, un cinéaste médecin américain.
Oui.
Il me semble, là, si je bats tout, j'ai pris en cours de route, c'était donc en cours d'émission.
Oui.
Mais paraît-il que la conscience existe. Il y en a, les scientifiques disent que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, et les théologiens disent, ou ceux qui croient à EMI, là, l'expérience de mort imminente, disent que la conscience existe en dehors du cerveau. C'est-à-dire que, comme l'âme, existe en dehors du cerveau.
Ouh là là ! Moi je dis qu'il y en a qui s'occupent des petits oiseaux. Mais j'aime bien le mot final de ce musulman qui téléphone sur cette radio, Kato.
Écoute, je peux pas te répondre parce que je sais que nous serons éternellement en présence de Dieu et c'est la plus belle chose qu'on peut vivre, ça.
Ouais.
C'est la plus belle chose qu'on peut vivre.
Écoutez, je vous remercie et puis je vous demande pardon de ne pas de poser des questions peut-être un peu impertinentes.
Non, pas du tout, Ahmed.
Non.
On attend avec impatience votre conversion, hein, vous savez.
Les gens sont contents d'entendre ce qu'on dit et quand on parle de l'éternité, c'est sans fin, c'est le bonheur parfait que nous aurons là-haut.
Ouais.
C'est ce que le saint a
découvert sur Terre.
Il vit le bonheur parfait, immense, sans fin.
Mais c'est quand même difficile à concevoir, quand même.
Il faut le vivre, Ahmed, il faut le vivre. On ne peut pas l'inventer. Quand vous avez réussi à vivre, à un moment donné, cette plénitude de Dieu sur Terre, votre vie est changée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Votre vie est changée.
Écoutez, je voudrais bien qu'on nous fasse un film un jour, une pièce de théâtre, je ne sais pas,
oui.
Ou même un tableau de peintre,
oui.
Nous représentant la vie après la mort.
Ah, il y en a beaucoup. Oh. Ahmed, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Ah bon ?
Ah oui, il y en a beaucoup. Des films, des peintures, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de représentations de ce qui se passe après la mort. Regardez chez Jérôme Bosch, notamment.
Ah ben alors, mon inculture, vous la constatez.
Oui, mais c'est pas grave, on est là pour apprendre des choses. Alors, Jérôme Bosch, voilà, par exemple, a peint des choses, Fra Angelico, dans un autre registre, a peint des choses sur la vie des saints après la mort. Notamment la danse dont vous parliez. Voilà.
Eh ben, vous me donnez de l'espoir.
Ben, j'espère bien. On est là pour ça.
Tu pourras danser, Ahmed.
Et il rajoute, et c'est finalement intéressant.
Je crois qu'il y a trois étapes concernant notre mort. Nous sommes tous mortels, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a des différences entre le bébé qui meurt, est-ce que lui, il a conscience qu'il est en train de mourir au moment où il est malade, la personne qui a déjà, disons, 10, 15, 4, qui connaît déjà, il sait ce que ça veut dire de mourir, même il s'imagine à peu près, quoi, mais il ne le sait pas vraiment, et la personne qui a 90 ans, ou voire 100 ans, qui se dit, bon, ben, j'ai accompli ma vie, avec du bon et du mauvais, bien entendu, on n'est pas des uns, enfin, pour ce qui me concerne, moi, surtout. Et en même temps, on se dit, j'ai accompli ma vie, j'ai assez vécu, je peux partir tranquille, j'ai rien à regretter sur la terre. Donc, il y a des gens qui meurent en étant inquiets parce qu'ils laissent leurs enfants en bas âge, n'ont pas accompli leur vie. Et le bébé qui meurt, lui, il est complètement dans l'inconscience de ce que ça veut dire la mort. Il voit qu'il est malade, mais il ne peut pas analyser. Et puis la personne qui a une centaine d'années, qui s'est dit, bon, ben, j'ai vécu, j'ai fait des fautes et j'ai fait des bonnes choses. Dans l'ensemble, je peux être content de ma vie, mais j'ai accompli, j'ai fondé un foyer, je me suis marié, je parle pour les laïcs. Hein. Et donc, parce que pour les pieux, tels que le père Guy Gilbert, bon, ben, il a accompli sa vie dans le sens où...
d'être religieuse, l'engagement religieux.
Voilà. Donc, c'est un accomplissement. Donc, il y a une certaine tranquillité d'un point de vue de son devoir, si on peut appeler ça un devoir, enfin, de son esprit.
Oui.
Donc, il y a trois conditions, il y a trois cas de figure devant la mort.
Alors, il y en a sûrement plus, mais Ahmed, on voit bien l'équilibre que vous définissez. L'enfant en bas âge qui n'a peut-être même pas conscience de ce qui se passe. La personne qui part trop tôt et qui n'a pas eu le temps d'accomplir ce qu'elle avait à accomplir, et puis la personne qui a suffisamment vécu et qui, à la limite, attend la mort comme une délivrance. Alors, Père Guy Gilbert, dites-nous.
Vous le dites beaucoup mieux.
Alors, je te dirais, Ahmed, que l'important, c'est le présent qu'on vit maintenant. Hier, j'en ai rien à foutre. Demain, c'est pas encore là. Mais vivre depuis très longtemps en pensant que c'est la minute à laquelle on vit qui est le plus important. Voilà, c'est ça la chose la plus belle à vivre.
Redevenir carrément un enfant est peut-être la solution, car Ahmed aimerait bien, entre autres.
On pense toujours à ce qu'on a fait de bien dans le passé. Et on pense aussi à l'avenir. Faut payer les impôts, etc. Rien ne sera plus beau que de vivre au moment présent où tu vis. C'est la chose la plus belle à vivre, ça.
Je suis d'accord avec vous, mais il faudrait redevenir un enfant.
Si tu veux, demande au Seigneur de redevenir un gosse de 1 an. Tu peux le demander.
Je veux bien redevenir un enfant parce que, franchement, je ne me posais aucune question. Pas comme maintenant. Ouais. J'étais heureux. Hein. Parfois, ouais. Maman, manger, dormir, m'amuser, jouer au foot.
Oui, ah bah ça,
et
c'est
puis,
génial.
Et puis, un peu plus tard, courir les filles.
Ah, bah ça, c'est d'autres problèmes déjà. Hein. Ça, Ahmed, c'est d'autres problèmes.
Bon, le Seigneur a demandé de vivre dans le présent. Et de laisser tomber le passé et le futur et vivre au moment où, maintenant.
C'est pas facile à faire.
C'est pas facile.
Non. Faut demander à Dieu de nous donner cette grâce. Voilà.
Bon, eh ben, je crois qu'en fait, quand on en revient toujours à la même chose, on est impuissant et il n'y a que Dieu qui peut tout faire.
Merci Ahmed pour cette profession de foi.
Merci beaucoup.
Très bien, tu deviens chrétien de plus en plus, Ahmed.
Bon, ok. Bonne soirée.
Allez, à bientôt. Merci. À bientôt sur notre antenne.
Alors lui, c'est vraiment un bon. Et une auditrice qui se rappelle les obsèques, non pas du grand-père, mais du père du père.
Anne-Marie qui nous appelle de Nantes. Anne-Marie.
Oui.
Bonsoir Anne-Marie.
Bonsoir. Et bonsoir Guy.
Bonsoir.
Oui. Alors Anne-Marie, vous disiez, je crois que vous aviez assisté aux obsèques du papa de Guy, c'est ça?
Oui.
Alors
oui,
dites-nous, dites-nous.
À l'église Notre-Dame de Rochefort.
Oui.
Bon, et j'avais été impressionnée par le fait que... aux obsèques du papa de Guy,
oui.
Il avait été dit qu'il demandait pardon à tout le monde de ce qu'il n'avait pas fait de bien dans sa vie. J'avais été très marquée par ça.
C'était... Ah oui. Tu te souviens de l'obsèque de mon père?
Ah oui.
Moi, je m'en souviens pas. Qu'est-ce que j'ai dit?
C'est pas vous qui avez dit. Il a été dit, je crois, par un laïc, que votre papa demandait pardon pour tout ce qu'il n'avait pas fait comme il faut. C'était, oui. Moi, j'avais été très marquée par ça.
Le prochain film de Claude Lelouch, qui est mon deuxième mentor après un certain Guy Gilbert, s'appelle Finalement. Et il sortira le 13 novembre prochain. Et j'ai comme l'impression que l'animateur en parle.
Finalement, le lien qui nous unit avec nos parents ou nos enfants, c'est l'amour. Et c'est peut-être déjà une expérience de Dieu dans notre vie humaine, terrestre, cet amour.
Oui.
Ah, Anne-Marie, on pourrait dire ça, peut-être.
Oui, je crois que ça ne se compare pas. C'est l'amour des uns et des autres.
Oui, c'est l'amour qui nous fait vivre. Et puis,
oui.
Je pense que c'est le plus fondamental dans l'existence. Père Guy.
Et c'est là qu'on retrouve le regard de Dieu. Quand tu as quelqu'un qui t'a aimé et qui t'aime toujours, tu trouves un morceau de l'amour de Dieu qui est immense, extraordinaire, puisque on vivra l'éternité avec l'amour de Dieu.
Oui. Mais ça... Et puis on peut pas dire non. On peut pas dire non quand on sent qu'on a été tellement aimé. On peut pas dire non. Il faut vivre.
Non, non, impossible. Je connais aucune personne qui a pu me dire j'ai pas été aimé. Je lui dis, je t'aime. Moi, je t'aime.
Oui, il y a toujours quelqu'un pour vous aimer quand même, en général. Au moins une personne, au moins un ami, au moins un camarade. Il y a toujours quelqu'un qui vous tend la main, qui vous regarde différemment et qui vous ouvre une petite porte, même si elle est juste entrouverte.
La détresse d'un jeune, c'est de ne pas être aimé. Ah, ça. Je connais ça parce que je vis depuis 59 ans. J'essaie de vivre l'amour, d'aimer les autres comme Dieu les aime. Et ça, c'est une merveille, ça. Le passé et le futur, je m'en fous, mais aimer maintenant quelqu'un.
Le dernier jeune que vient d'accueillir Guy Gilbert dans sa célèbre maison des Alpes de Haute-Provence, il en parle de façon très belle et très concrète.
Je vois, j'ai mangé avec un jeune qui vient d'arriver, là, qui a été maltraité et qu'on nous a confié.
Oui.
Eh bien, je l'aime. J'ai mangé avec lui tout à l'heure. Je dis pas que je l'aime parce qu'il trouvera ça stupide, mais je l'écoute. Je l'écoute, je lui parle et il répond. Ah, ça.
Ah, ça, c'est beau.
Long blabliblabla d'une auditrice de Montlignon dans l'Orne, donc je coupe. Je reprends juste pour la question des indulgences. Et d'ailleurs, on n'aura pas la réponse.
Alors Colette, voilà. Colette, oui. Est-ce que vous avez une petite question à poser au Père Guy, Gilbert?
Écoutez, sur les indulgences, voilà.
Oh, les indulgences, d'accord.
Oui,
alors.
Mais pour nos défunts, voilà.
Oui, nos indulgences. Alors, Père Guy, est-ce que vous avez entendu la question de Colette? La question des indulgences. Oui, alors dites-nous, qu'est-ce
pour
que
les
vous
défunts.
En pensez? Oui,
je
pour les
connais
défunts.
Ce sanctuaire... J'ai été dire la messe une fois là-bas. Ils sont. C'est un sanctuaire qui est réservé à ceux qui sont morts.
Ouais.
Et c'est très très beau. Il est uniquement versé pour les morts.
Oui.
Et c'est un sanctuaire que je vénère.
C'est aussi un lieu de pèlerinage, Colette, hein, il faut le rappeler.
Oui, c'est un lieu de pèlerinage. Et moi, ce sanctuaire, moi, je partage avec Père Guy, c'est compris pour nos morts, mais là, on sent qu'ils sont portés, c'est accompagné, il y a une beauté qui enfin, c'est moi, je suis touchée. Et donc, là, je partage.
Et faire dire des messes pour les défunts, cela tombe largement en désuétude. Malheureusement, avec cette mode à la con d'Halloween. Oui, j'insiste.
Et puis, il ne faut pas oublier, attendez, la prière avec les Saint Odilon aussi. Saint Odilon, il y a beaucoup de... C'est un intercesseur pour les âmes du purgatoire.
D'accord.
Parce que, tenez que le père Guy Gilbert en a parlé.
Oui,
mais
vrai.
Pour les indulgences, les adjudances aussi, pour les défunts, il faut demander... Là, on va rentrer dans l'année sainte en 2025.
Oui.
Et là, il faut demander beaucoup d'indulgences pour nos défunts.
Oui, enfin, on peut dire, Colette, qu'il faut prier pour nos morts, tout simplement. Hein. Je crois que c'est ça qu'il faut dire.
Oui, mais ça, il le faut. Et puis, faire dire des messes.
Et faire dire des messes. Alors,
mais surtout, on préfère dire des messes parce que c'est le, la Sainte Eucharistie, la messe qui est porteur pour un défunt.
Oui, on peut redire à nos auditeurs.
Que, voilà ce que je voulais dire.
Alors, Père Guy, on peut dire à nos auditeurs qu'on peut faire dire des messes pour nos morts, quand même.
On peut faire dire des messes pour les morts. Je dis une messe tous les jours à Faucon et je prie pour tous les morts que je connais ou que je ne connais pas.
Voilà. Oui. C'est ça. C'est
faire. Une louange magnifique tous les jours de prier pour les morts, les gens qu'on a connus et les gens qu'on n'a pas connus, parce que eux-mêmes prient pour nous. Ça, c'est extraordinaire. Les âmes de purgatoire et les saints prient pour nous. Donc, il y a un dialogue entre nous et les vivants et les morts. C'est très important, ça.
Guy Gilbert et sa façon bien à lui de parler de et à son ange gardien.
Père Guy, est-ce qu'on peut prier pour son ange gardien? Est-ce qu'on peut prier pour un ange? Créature
oui,
céleste.
Dire à l'ange gardien, allez, bouge-toi le cul un petit peu pour t'occuper de moi. Hein. Parce que si par moment, on ne pense pas trop à l'ange gardien, tu le bouges, dis allez.
Bouge tes ailes un peu. Hein, voilà.
Et ça, je n'y avais réellement jamais pensé. C'est si vrai, entre guillemets.
Ok. Alors, Colette.
Par contre, Frédéric, le monde irait mieux si on priait pour tous nos défunts. Parce que les souffrances qu'il peut y avoir au purgatoire peuvent aussi rejaillir sur nous ici. Parce que nous portons, je pense, jusqu'à la quatrième génération, ce qu'on peut-être on fait de mauvais nos ancêtres.
Ah, oui, alors ça, je ne sais pas.
Oui, nous portons aussi des choses que...
Sans doute, on ne sait pas.
Oui,
des choses qui passent, sans doute.
Et c'est pour ça aussi qu'il faut prier pour eux. Et c'est pour ça que le monde se porterait mieux s'il y avait un peu plus de prière.
Et d'amour.
La prière est l'infini de Dieu.
Ouais. Oui.
Nous devons sans cesse prier en disant « Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Mm-hmm. » Sans cesse. C'est une prière pas difficile.
Non.
Seigneur, je t'aime. Voilà.
Merci Colette d'avoir appelé. Merci beaucoup.
Bonne soirée. Merci.
Merci infiniment Colette. Merci.
Et là, un mec qui communique, soi-disant, avec les morts.
Donc je reçois les âmes des personnes décédées qui me parlent.
Ah bon ?
Enfin, qui me parlent, qui rentrent en contact avec moi quand j'ouvre mon Nouveau Testament.
Et qu'est-ce que ça procure, qu'est-ce que ça dit en vous?
Ça m'appelle parce que ça crée une discussion dans mon âme.
D'accord. Et les gens qui se présentent à vous, les âmes, disons, qui se présentent à vous, disent leur nom, leur...
Je devine leur nom parce que des fois, il m'arrive même, le vœu de silence est là aussi, hein, d'avoir l'impression de voir une personne de connaissance qui est décédée, dans les yeux d'un interlocuteur que j'ai en face de moi.
Ah oui.
Donc là, c'est le vœu du silence du monastère, hein, carrément.
Oui.
Et donc, je discute avec sans parler. Et puis des fois, la personne me dit, mais pourquoi tu me regardes ainsi? Je dis, non, pour rien.
Est-ce que Franck...
Et donc, c'est ma religion à moi, quoi. C'est mon côté vie éternelle à moi.
Oui. Alors Guy, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous partage Franck, cette expérience avec les morts?
Je pense que c'est bon qu'il puisse avoir un dialogue avec des gens morts, vraiment, et que c'est une chose très belle. Et n'oublie pas que la personne qui est morte peut prier pour toi.
Moi c'est ce que je fais aussi dans le Nouveau Testament, et j'ai parallèlement mon nouveau psychiatre que j'ai depuis 10 ans maintenant, qui me suit comme ça, c'est un musulman. Alors, j'ai acheté un Coran et je vogue entre les deux. Donc j'ai des amis chez les islamiques, de très bons amis, hein, pas des, mm-hmm. des extrémistes. Hein.
Non, non.
Et ben dans leur famille, il y a des décédés
oui.
qui parlent avec moi aussi dans ce livre.
Ah oui, ah ben voilà.
Ben, très bien.
Chacun parle dans son livre.
Ça résume tout, ça résume qu'il y a des bons et des mauvais partout. Quoi. Voilà.
Ouais, ça on savait déjà l'ami. Et Guy, ancien scout, même moi, depuis 33 ans, en continu avec lui, j'ignorais qu'il a été scout.
Allez-y.
Je vais dire à monsieur l'abbé et
oui.
Guy Gilbert,
oui.
est-ce qu'il a été scout?
oui.
Alors, Père Guy, oui, est-ce que vous avez été scout, Père Guy?
J'ai fait du scoutisme pendant 5 ans en Algérie. J'ai inventé, enfin, j'ai suivi les préceptes de quelqu'un qui m'a demandé d'être scout pionnier.
Ah.
Et j'ai lancé les scouts pionniers en Algérie pendant 5 ans. C'était extraordinaire.
D'accord.
On a voyagé partout en Algérie. On a été en Allemagne. On a été... c'était magnifique.
D'accord. Ah ben voilà, Jean Herman, donc...
Monsieur l'abbé, je vous dis union de prière, je prierai pour vous, j'espère vous prier pour moi. Et,
merci.
Et puis je dis que Dieu bénisse la radio et ses auditeurs.
Remplacer Guy Gilbert? Mais qu'est-ce que j'entends?
Je prie tous les soirs pour les morts, moi. J'ai un rituel de prière pour les morts de ma famille et les morts que j'ai accompagnés parce que je suis député aux obsèques. Donc, je remplace le prêtre, hein, je remplace Guy Gilbert, oui. lorsque, hein, de façon à permettre de pouvoir faire les cérémonies, donc les accompagnements lors des obsèques.
En sachant, Luc, qu'on ne peut pas remplacer Guy Gilbert, vous savez bien.
Bien sûr, mais non, il est irremplaçable, et surtout quand il était venu avec son blouson noir, et qu'il est monté sur le banc de l'église, alors que le curé nous interdisait de monter sur les bancs, alors, non, c'était formidable, c'était la contestation parfaite. Non, Guy est bien sûr irremplaçable, tout à fait.
Bon, ça va, t'auras qu'une petite claque. Et belle conclusion du gars, qui se dévoue pour officier lors de ces putains d'enterrements.
Et oui, alors lorsqu'on accompagne des gens lors des obsèques, énormément de gens aujourd'hui n'ont plus la foi, hein. En fait, c'est la peur de la mort. Mais lorsqu'on peut avoir un remerciement à la fin des obsèques, je crois que c'est le plus grand cadeau qu'ils nous font. Hein, lorsqu'on a fait naître une petite flamme d'espoir, hein, que tout n'est pas fini, mais qu'il existe un peu quelque chose, c'est un remerciement qui est formidable, qui nous est fait à nous, députés aux obsèques, et à tous mes collègues aussi, hein, tant hommes que femmes. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont députées aux obsèques que d'hommes, hein, qui se consacrent à cette fonction. Voilà.
De toute façon, une cérémonie, de quand on enterre quelqu'un, il y a des non-chrétiens qui viennent à la messe.
Oui, c'est vrai.
Mais tu laisses une phrase extraordinaire. Il est vivant. J'ai conscience qu'il est vivant. Et ça, les gens portent ça en sortant.
Bien sûr, bien sûr.
Je crois que la mort, c'est fini. Je dis, il est vivant. Il est vivant. Il est en Dieu maintenant.
Oui, tout à fait. Et je crois que faire naître un espoir lorsque la mort correspond à une fin totale, c'est quelque chose de très, très beau. Hein, ça arrive. Pas très souvent, mais ça arrive.
Très, merci,
très beau.
Merci, Luc, de votre appel. Merci
infiniment. Et merci à vous. Et puis, toutes mes salutations, puis les salutations de la Belgique au pays Guy Gilbert. Voilà, bonne soirée.
Merci beaucoup.
Si j'avais été une fille, il paraît que je me serais appelée Corinne. Bon, tout le monde s'en fout, mais voilà qu'une Corinne pose une très bonne question.
Il y avait d'autres questions comme Corinne de Douai qui s'interrogeait sur le mal en termes d'obscurité et qui posait la question à savoir est-ce que l'enfer est provisoire sur la terre comme au ciel, point d'interrogation, et est-ce que cet espace théologique qu'est l'enfer est provisoire? Est-ce qu'on y reste pour toujours? Est-ce qu'on le traverse? Est-ce qu'on peut y être recherché par l'amour de Dieu? Guy.
Ça, c'est une question que Jean-Paul II a dit un jour. J'ai pris sa réflexion. Il disait, comment peut-on concevoir l'éternité dans la souffrance et sans l'amour de Dieu.
Ouais.
Et j'avoue que cette phrase m'avait frappé énormément. Il doutait pas, mais il pensait que c'était quelque chose d'incroyable de vivre pendant l'éternité dans l'ombre de Dieu. Ça, enfin.
Oui, ça, c'est vrai que on a quand même du mal à se représenter le fait que des personnes, même volontairement, soient séparées de l'amour de Dieu sans que Dieu n'aille les chercher.
Rapide flash sur le paradis.
Martine qui nous appelait de Bordeaux en réponse à Ahmed, Ahmed qui nous entend sans doute, voulait dire que le paradis était aussi un lieu de félicité qui ne fait qu'augmenter. Voilà, le paradis croisse comme le royaume des cieux croisse sur la terre comme aussi.
La mort est tout ou rien ?
La mort n'est rien. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Et s'il y en a parmi vous qui veulent lui écrire ?
Et je voudrais vous terminer en disant, vous pouvez m'écrire à Radio Notre-Dame, Père Guy Gilbert, 6 boulevard Edgar Quinet, 75014, Paris. Je réponds à toutes les lettres. Je viens cet après-midi de répondre à 4 lettres comme envoyées de Radio Notre-Dame. Toutes les lettres, je réponds.
Merci voilà. Père Guy, merci infiniment.
Belle bénédiction finale.
Père Guy, pour conclure, un dernier petit mot de fin.
Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Je bénis tous ceux qui sont partis, envolés par Dieu au purgatoire. Que Dieu les garde et les protège. Et s'ils sont au purgatoire, qu'il les fasse sortir le plus vite possible.
Mais s'ils sont Amen. Au paradis, qu'ils prient pour nous.
Amen.
Amen, Père Guy. Amen. Et à bientôt, on se retrouve dans un mois.
Meilleur format, effectivement, que les émissions de cette année scolaire. Et notre Guy national explique pourquoi en conclusion.
Dans un mois,
ouais.
Je préfère cette émission superbe. En une heure et demie, on a le temps.
Ouais.
Avant, c'était toujours les mêmes qui m'appelaient. J'avoue que je suis très content de parler avec vous et de vous voir, de vous entendre le premier mercredi du mois.
Eh bien, c'est une grande joie, une joie partagée par tous nos auditeurs et également toute notre équipe. Merci bientôt. Je vous souhaite une bonne nuit sans oublier de vous confier, comme chaque soir, à la prière de vos anges gardiens. À bientôt, à la semaine prochaine.